Bonjour et bonne année, heureux de vous retrouver pour ce premier grand face-à-face de 2022. Les piliers, les cariatides du grand face-à-face sont là, toujours solides. Et à mes côtés, Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Et ils sont prêts pour le duel. Dans un instant, ce sera avant le débat du samedi, autour de cette question, comment construire, comment protéger nos démocraties à l'ère du numérique et des data. Sommes-nous toujours des poissons rouges enfermés dans le bocal de nos écrans? C'est l'image et la tête d'un essai passionnant qui décrivait il y a 2-3 ans la civilisation du poisson rouge. Autrement dit, notre époque, les géants du numérique qui se battent à coups de milliards d'euros pour capter notre attention et nous rendre toujours plus accros à nos écrans. L'auteur, c'était l'un des meilleurs spécialistes de nos vies à l'ère numérique, le président de la chaîne Arte, Bruno Patino. Et il prolonge, Bruno Patino, la réflexion dans un livre important et qui vient de paraître, le titre « Tempête dans le bocal » chez Grasset. Il est décrit ce qu'il appelle le cinquième pouvoir, le cinquième, celui qui fait tomber les frontières entre le public et le privé. Ce cinquième pouvoir qui privilégie l'émotion sur la raison et dont les algorithmes produisent la rentabilité économique. Alors comment s'échapper du bocal et sortir de l'aquarium? Comment se libérer de cette servitude volontaire et quelles solutions imaginer pour reprendre le contrôle de nos vies? Rendez-vous pour en parler avec Bruno Patino dans une vingtaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Et bonne année.
Bonne année à vous.
Mais bonne année.
Et je suis heureux de vous retrouver. Une année qui commence fort sur la scène politique. Une année qui a commencé par cette polémique dont on a tous entendu parler en pleine vague du variant Omicron. Le président de la République a suscité la polémique dans un entretien qu'il a donné au journal Le Parisien avec des propos très durs envers les personnes non vaccinées. Il y a deux citations que je retiens, j'ouvre les guillemets, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, ou cet autre, un irresponsable n'est plus un citoyen. Stratégie assumée, la preuve par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il défendait Emmanuel Macron et ce qu'on peut appeler la stratégie de l'emmerdement.
Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent « mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner ». Nous, nous avons toujours fait le choix, avec nos soignants, de soigner tous les Français qui étaient frappés par la maladie. C'est un choix en responsabilité. Mais la responsabilité, c'est aussi de prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement lors de son point presse hebdomadaire, et vous vouliez y revenir, Gilles, malgré tout ce qui a été dit, le flot de commentaires qu'a suscité le président de la République dans cette interview du Parisien.
Oui, nous allons revenir sur l'ensemble de cette interview, et pas seulement sur ces deux phrases, mais je dois dire que au moment où cette nouvelle année commence, on a à la fois le virus qui galope et cette campagne qui consterne. La pré-campagne avait été médiocre avant les vacances d'hiver. Cette première semaine est nulle.
Nulle.
C'est nul. À tel point que on finit par avoir la crainte, pour détourner le titre de la pièce de Jean Giraudoux, l'élection présidentielle n'aura pas lieu. Une élection présidentielle, c'est pas seulement une opération électorale. Une élection présidentielle, c'est la confrontation entre des visions, des valeurs, des propositions. Or, on a eu toutes ces dernières campagnes, depuis 15 ans, des campagnes qui n'en finissaient plus, qui étaient des campagnes très longues. Cette fois-ci, on a une campagne qui n'arrive pas à commencer. Et on voit que l'agenda est phagocyté, on le comprend, par l'explosion du virus.
Oui.
Et le reste est accaparé par des polémiques d'une médiocrité sans nom.
C'est rare, Gilles, et les auditeurs, ceux qui nous écoutent le savent, c'est rare de vous entendre employer des mots aussi durs, et en l'occurrence, la façon dont vous qualifiez cette campagne ou pré-campagne présidentielle, quand vous dites consternant, nul, médiocre.
Oui, parce que je pense qu'il y a un risque collectif maintenant qui est un risque absolument majeur. J'ai été frappé juste avant les vacances, nous avons fait avec le journal Le Point et la Fondation Jean Jaurès et Via Eus une enquête qui était la deuxième édition du baromètre des émotions.
Oui.
On essaye de mesurer les émotions que suscite un certain nombre d'événements. Lorsque on dit aux Français campagne présidentielle, qu'on leur propose un certain nombre d'émotions, d'émotions positives, d'émotions négatives, je vais vous lire la liste des émotions qu'ils retiennent. Certains, il y a un mot là-dedans qui est un intrus, qui est le mot « espoir » pour une petite partie des Français. Le reste, c'est quoi dans l'ordre ?
Oui.
Indifférence, incompréhension, colère, dégoût,
dégoût,
ennui, désespoir, peur et honte. Et donc, on sent monter une consternation collective devant cette non-campagne présidentielle, avec derrière le risque d'une abstention électorale et derrière le risque d'un président qui soit élu sans mandat et sans légitimité. Donc, l'élection commence à approcher, vraiment.
Oui.
Cette crainte, je crois, est forte. Et donc, il faut, je crois, collectivement réagir. C'est vrai pour les candidats, mais c'est vrai pour les médias, c'est vrai pour les intellectuels, les acteurs de la société civile. Comment on fait pour ne pas se laisser engluer dans cette campagne médiocre ?
Et dans des polémiques stériles, on va justement parler du fond dans un instant, Natacha Polony.
Je souscris à ce que vient de dire Gilles, qui est selon moi une partie importante du problème, et en effet je suis d'accord, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas avoir de campagne présidentielle, puisque déjà la précédente n'avait pas eu lieu, on avait par les costumes pendant à peu près toute la campagne, c'est en train de se reproduire. C'est un des aspects du problème. Il y en a un deuxième, selon moi, c'est le fait que cette interview présidentielle est révélatrice de quelque chose de beaucoup plus profond. On n'est pas seulement sur une polémique. On n'est pas seulement sur une petite phrase, comme il y en a d'autres dans cette campagne, en effet totalement consternante. Parce que ça révèle un mouvement de fond. Pourquoi ? Parce que le président de la République prononce un gros mot. Et là, c'est ce que beaucoup ont retenu et c'est ce qui choque la plupart des gens. Or, moi, ce qui me choque profondément, c'est la conception qu'il a de la communauté politique. Il y a quelque chose qui est apparu dans cette interview, qui est majeur, c'est la notion d'une troisième voie entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal.
Comment ça ?
Et je crois que c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que, en démocratie, la loi est délibérée collectivement, elle régit les comportements de la communauté politique, et chacun l'accepte parce que, en effet, c'est une délibération collective. Donc, ce qui n'est pas légal est autorisé. Et là, nous faisons rentrer dans le champ politique, une autre catégorie qui est la catégorie morale. C'est-à-dire qu'en gros, les non-vaccinés, sans qu'on sache d'ailleurs pourquoi ils sont non-vaccinés, parce que pardon, mais ils ne sont pas tous anti-vax, les non-vaccinés. 40%, c'est une étude là qui vient de paraître qui le dit, 40% sont tout simplement des gens qui sont éloignés de l'information, des centres de santé, et qui donc n'ont aucune intention de ne pas se faire vacciner, mais tout simplement ne savent pas, n'ont pas accès.
Bon. Mmh.
Mais donc, ces gens-là, qui n'enfreignent pas la loi, hein, puisqu'il est autorisé, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Donc, ils ont l'autorisation de ne pas être vaccinés. Eh bien, on les désigne, le président de la République, garant des institutions, les désigne comme étant des personnes qu'il va falloir mettre au banc de la société.
Mais ce qui vous a choqué, c'est l'idée qu'ils sont irresponsables.
Alors,
et que l'irresponsable n'est pas un citoyen.
Une chose de plus, voilà, c'est que cette notion de responsabilité est en effet au cœur de la question de la démocratie. Je le dis assez souvent dans cette émission, pour moi, il me semble que la démocratie est fondée sur l'idée d'individus rationnels qui sont des citoyens, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes et responsables. Sauf que là, en l'occurrence, Emmanuel Macron tord cette notion de responsabilité. Pourquoi ? Parce que la responsabilité, c'est justement la capacité à pouvoir répondre de ses actes, à les assumer et en l'occurrence même à en répondre devant la justice. Or là, il construit une notion qui semble la même, celle de donc l'opposé de la responsabilité qui est l'irresponsabilité, mais une irresponsabilité qui est désignée par une partie, par des élites, ceux qui pensent bien, le cercle de la raison, je ne sais quoi, qui décident qui est responsable et qui est irresponsable. Ce qui n'est plus du tout la même notion et qui a même tendance à pathologiser parce que ça se rapproche de la notion d'irresponsabilité en termes quasiment psychiatriques. Et donc, on est en train de nous expliquer qu'il y a des gens qui ne sont pas des citoyens autonomes et responsables. Et La question est de savoir qui décide, ceux qui sont responsables et ceux qui ne le sont pas. Il y a là donc une conception fondamentale de la démocratie. Je pense que ça rejoint la notion de centrisme autoritaire que j'ai déjà évoquée ici. On est dans l'affirmation d'une idée profondément autoritaire et j'irai même plus loin pour le coup, totalitaire, dans la mesure où, en effet, on veut régir la société par des caractères moraux plus que légaux. Ça me semble dangereux.
Gilles,
On a terminé l'année fatiguée, hein, c'était le mot qui ressortait. Là, je vois que tout le monde, en plus, est exaspéré. Moi, ces propos, les deux, ceux que vous avez cités, suscitent en fait, une forme d'incompréhension.
Vous qui êtes un observateur scrupuleux de la vie politique et des mots qu'emploient les hommes et femmes politiques.
J'aurais aimé être...
Vous ne comprenez pas.
Je suis très malin et je vais vous dire qu'en fait, c'est hyper intelligent.
C'est une stratégie,
c'est une stratégie. Ce qui est sûr, c'est que c'est assumé puisque l'interview a été relue. Mais pourquoi incompréhension? Parce que l'atout d'Emmanuel Macron en 2017, et c'est un élément très important pour tout responsable politique, c'était sa cohérence. Après, on pouvait l'approuver ou ne pas l'approuver. Mais sa cohérence, c'était une rupture par rapport au système politique en 2017. Et il y avait cohérence entre ce qu'était sa personnalité, son parcours, son âge, ce qu'était son positionnement politique, le ni gauche ni droite ou le et gauche et droite, et ce qu'était sa stratégie politique avec une nouvelle formation politique. Il y avait un alignement entre les trois. Or, la déclaration de cette semaine, elle vient briser cette cohérence sur le ton entre le Emmanuel Macron de décembre dernier qui dit « j'ai appris, il faut pas blesser
oui. »
et celui qui a très envie d'emmerder les Français, on ne comprend pas. Et entre le début et la fin de la même interview, au début de l'interview où il a très envie d'emmerder les non-vaccinés, et à la fin de l'interview, en parlant de l'extrême droite, il dit « il faut une discipline du débat citoyen, il faut lutter contre la fascination du conflit, du clash et du sensationnel ». Donc où est la cohérence? Et puis sur le fond, c'est ce que disait Natacha Polony, le lien entre l'irresponsabilité et la citoyenneté, moi c'est plutôt sur ce mot de citoyenneté, qui disent que ce n'est pas un comportement civique. Oui. Qui disent que, à la limite, que ce ne sont pas des bons citoyens. Pourquoi pas? Si on les exclut de la citoyenneté, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On les déchoit de leur droit de vote, de leur nationalité, on ne les soigne pas. Donc on rentre dans quelque chose qui, en fait, n'a plus de limite et qui, par ailleurs, c'est mon dernier mot, n'a pas d'efficacité. Évidemment, pas d'efficacité sanitaire. Ça, il n'y a pas une personne qui n'est pas vaccinée qui va être convaincue d'aller le faire après les propos du président de la République. Mais y compris d'un point de vue politique, je vois que pour l'instant, les sondages ne bougent pas beaucoup, qu'en gros, les Français considèrent qu'ils sont d'accord avec ce qu'il dit, mais qu'elle a eu tort de le dire. Mais dans l'électorat de droite, qui est la cible d'Emmanuel Macron, cet électorat, plus que les autres, approuve son action, mais n'approuve pas sa personnalité. Or, c'est ce qu'il vient réactiver, et donc, encore une fois, je ne comprends pas.
Encore un mot, Natacha, sur
sujet. Un mot rapide. Il y a également une dimension qui est ce jeu très dangereux sur ces fondamentaux profonds de la démocratie à des fins tacticiennes et politiciennes, qui, moi, me gênent énormément aussi. C'est parce qu'on a tous compris qu'en fait, Emmanuel Macron avait intérêt à utiliser le coronavirus dans cette campagne en fracturant les différentes oppositions et en les poussant dans leur retranchement. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est le problème de Valérie Pécresse qu'on a vu cette semaine, c'est-à-dire que il est admis désormais que un homme d'État ou une femme d'État est quelqu'un qui est pour la vaccination obligatoire ou le pass vaccinal et que sinon on sort du champ de la raison. C'est ça qu'a voulu introduire Emmanuel Macron, c'est-à-dire forcer ses adversaires à être soit d'accord avec sa politique sans être capable de proposer autre chose, soit d'être dans le camp des irresponsables. Premièrement, d'un point de vue sanitaire, c'est quand même extrêmement problématique parce que de fait, on n'a pas le temps d'y revenir, mais enfin, cette histoire de passe vaccinal, alors même qu'on est en train de s'apercevoir qu'on peut être vacciné et contaminé largement, est ahurissante.
Et on aura l'occasion d'y revenir dans une autre émission.
Et quand on en est à parler de quatrième dose au bout de 3 ou 4 mois, ça devient dingue. Mais surtout, ça veut dire qu'il y a dans sa façon de mener la politique une volonté claire que cette campagne n'ait pas lieu et que ses adversaires soient obligés de ne pas parler, puisqu'en fait, on ne peut pas aller sur d'autres sujets que celui-ci.
Alors, ses adversaires, ils parlent, elle parle en l'occurrence. Je pense à Valérie Pécresse, candidate des Républicains à l'élection présidentielle. C'était ce jeudi, lors d'un déplacement dans le Vaucluse.
Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers, et il faut traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté.
Alors, on ne va pas commenter tous les propos politiques qui ont suscité la polémique cette semaine, et on aura l'occasion avec Bruno Patino dans un instant de parler de sujets de fond, mais en l'occurrence, Natacha, vous vouliez revenir sur ces propos de Valérie Pécresse qui rappelait évidemment la formule employée par l'ancien président Nicolas Sarkozy en 2005.
Oui, en deux mots, rapidement. Ça illustre d'abord ce que nous venons de dire et ce que disait notamment Gilles, à savoir que, visiblement dans cette campagne, puisqu'il y a la tentation qu'il n'y ait pas de campagne, chacun y va de sa petite phrase pour exister et essayer d'imposer sa problématique. En gros, face au piège du coronavirus, Valérie Pécresse nous sort le Karcher. Bon. C'est pas seulement le Karcher, c'est du gros rouge qui tâche. Et c'est assez consternant de ce point de vue-là. Deuxième point, on est assez frappé quand on voit la campagne qu'essaye de mener Valérie Pécresse, finalement de constater à quel point elle ressort absolument toutes les vieilles lunes de la droite. Toutes. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une droite qui a 15 ou 20 ans idéologiquement. Donc, on est dans l'affirmation d'un chiracisme dont on sait maintenant que le bilan est quand même assez léger. On est dans l'éloge du programme de François Fillon qui, déjà en 2017, s'appuyait sur un constat économique notamment qui avait 10 ans de retard. Et on est maintenant dans cette espèce de façon de bomber le torse. Alors certes, il y a derrière des propositions concrètes sur le nombre de places de prison, sur des investissements, etc. Mais c'est une lecture de l'état des quartiers qui semble, par son simplisme et son usage du slogan, d'une pauvreté absolue.
En l'occurrence, on ne va pas donc revenir sur tout ce qui a suscité la polémique cette semaine, mais Gilles, est-ce que et ou comment est-ce qu'on pourrait imaginer une campagne présidentielle qui reviendrait au débat de fond, aux questions fondamentales, au fond, auxquelles les différents candidats devraient répondre ?
C'est à la fois très compliqué et très simple. Et il suffirait que les candidats à l'élection présidentielle fassent état publiquement de le diagnostic sur l'état du pays, sur l'état de l'Europe, sur l'état du monde, qu'ils fixent les orientations qui sont les leurs, les objectifs qu'on peut collectivement se poursuivre, qu'ils les illustrent avec des propositions et que le débat se noue autour de ça. Ça s'appelle une campagne présidentielle.
Voilà. Ça semble très simple et il y avait justement cette semaine quelqu'un qui faisait un état des lieux assez alarmant. C'est la suite du duel.
Le grand face-à-face. Le duel.
Il faut relativiser les choses. C'est-à-dire, si on est à 3 ou 4% d'inflation, c'est pas un mal absolu. Dans cette inflation, il y a, je pense, du conjoncturel et du structurel. Il y a des goulots d'étranglement qui brusquement font que certains produits augmentent de manière déraisonnable. Et puis, il y a du structurel.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF, qui était l'invité du grand entretien de France Inter ce jeudi, et je cite « On est parti pour une longue période d'inflation ». Fermez les guillemets, c'est évidemment l'un des grands enjeux de la rentrée, et un scénario du pire que décrivait le président du MEDEF sur Inter jeudi dernier. Natacha ?
Oui, alors scénario du pire, ça reste à nuancer. La question de l'inflation, elle est extrêmement intéressante, puisqu'en gros, depuis plusieurs années, nous étions dans une inflation quasi inexistante. Et c'était même un problème, cette absence totale d'inflation. C'est-à-dire que on a, ne serait-ce que dans les mécanismes européens, l'idée tout à fait juste selon laquelle une inflation autour de 2% est nécessaire. Et on était largement en dessous. Or, il faut bien comprendre que d'abord, il y a différentes sortes d'inflation. Et ensuite, la question est de savoir comment s'enclenche cette inflation et quelles sont ses conséquences. Si on en reste, en effet, à une hausse des prix qui se répercute sur le pouvoir d'achat des ménages, il va y avoir un énorme problème. Mais si cette hausse des prix enclenche une spirale de hausse des salaires À partir du moment où ça ne dérape pas, et c'est là toute la complexité du jeu, ça peut devenir intéressant. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un système qui, jusqu'à présent, et notamment par l'absence d'inflation, favorise les rentiers. C'est-à-dire que l'ensemble de l'économie, à travers la maîtrise totale de l'inflation, qui, je le rappelle, est dans les missions de la BCE, c'est-à-dire que l'ensemble des institutions européennes sont pensées pour lutter contre l'inflation et absolument pas contre le chômage de masse. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, tout ça est fait pour favoriser ceux qui ont déjà le patrimoine, ceux qui ont déjà le capital, mais ça défavorise ceux qui ont besoin d'emprunter, ceux qui ont besoin de rentrer sur ce marché. Donc, une inflation qui permettrait une hausse des salaires et qui permettrait donc de rééquilibrer en faveur des travailleurs. La question est justement celle des négociations par branche qui ont lieu actuellement et qui, pour l'instant, ne sont pas suffisantes, puisqu'on voit très bien qu'on a des hausses de salaire proposées à 1% et quelques, 1,5%, face à une inflation qui, elle, atteint 3%. C'est donc tout cela qu'il va falloir négocier, mais l'inflation en elle-même n'est pas un mal, c'est un choix de société aussi, de savoir qui on veut favoriser, les rentiers ou ceux qui ne possèdent pas.
Gilles, avant de passer au débat.
Oui, depuis maintenant 20 ans, on avait une distorsion entre les chiffres, une inflation qui était historiquement faible et même à certains moments la crainte d'une déflation et la perception qu'en avaient les Français qui était d'une inflation qui était forte.
D'une vie toujours plus chère.
Et d'une vie qui était toujours plus chère. Aujourd'hui, on a un alignement avec ce retour de l'inflation. C'est vrai en France, c'est vrai également en Europe, on est à 5% d'inflation dans l'Union européenne en 2021, c'est le score le plus élevé, le chiffre le plus élevé depuis 20 ans. On est à 7% aux États-Unis, c'est le chiffre le plus élevé depuis 40 ans et c'est davantage encore dans beaucoup d'autres pays émergents. Les enjeux politiques qui sont derrière, il y a l'enjeu du pouvoir d'achat qu'a évoqué Natacha. C'est une question qui est revenue pour des raisons politiques avec le confinement et cette hiérarchie implicite des salaires que l'on a vu émerger. Elle revient pour des questions économiques et donc il va falloir, Natacha a raison, observer les propositions des différents candidats sur le SMIC et puis regarder ce qui se passe sur les négociations salariales. Et puis il y a un deuxième enjeu, c'est celui par lequel je termine, qui est celui de l'évolution des taux d'intérêt. C'est un enjeu évidemment pour les ménages qui veulent emprunter pour notamment pour acheter un logement, mais c'est un enjeu déterminant aussi pour le premier emprunteur qui est l'État. Mmh. On est aujourd'hui, pour le dire de manière très simple, dans une situation très bizarre dans laquelle l'État est de plus en plus endetté et rembourse de moins en moins parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Si par hasard il y a et c'est pas par hasard, s'il y a une hausse continue des taux d'intérêt, eh bien, les questions de remboursement de la dette et les questions de financement des enjeux dont on ne parle pas dans cette campagne présidentielle, notamment de la transition climatique, eh bien, ils se poseront de manière très différente.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Bruno Patino.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Fausse rumeur. Fausses annonces, faux sauveurs donnant de fausses réponses, faux bijoux donnant de fausses rivières. Ça va finir qu'on sera tous des fausseurs.
Ça va finir qu'on sera tous des faussaires, chantait Francis Cabrel. Bonjour Bruno Patino.
Bonjour.
Et merci d'être notre invité. Bonne année. Et cette chanson, elle fait partie de la bande-son d'un livre passionnant que vous signez et qui vient de paraître chez Grasset. Tempête dans le bocal, c'est le titre, la nouvelle civilisation du poisson rouge. Vous allez nous expliquer pourquoi Francis Cabrel, alors non pas vos goûts esthétiques, mais pourquoi cette envie de parler des faussaires, des faux et d'usage de faux. On a la civilisation du poisson rouge qui était l'un de vos derniers livres publiés il y a 2 ans et vous prolongez cette réflexion, cette civilisation du poisson rouge où vous nous décriviez enfermés dans le bocal de nos écrans comme dans un gigantesque aquarium, incapable de nous concentrer plus de 8 secondes d'affilée, et les stratégies des géants du numérique qui se battent à coups de milliards d'euros pour capter notre attention. Alors vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de nos vies à l'ère numérique. Vous réfléchissez également aux démocraties, à nos démocraties, au péril des réseaux sociaux et des grandes plateformes. Vous êtes président d'Arte, vous connaissez bien la question des médias traditionnels, des médias qui ont évidemment évolué. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans? Pourquoi est-ce que vous parlez de nouvelle civilisation du poisson rouge, Bruno Patino?
Merci beaucoup d'abord. Et en fait, si on regarde, il y a 2 ans, vous l'avez tout à fait résumé, la civilisation du poisson rouge, ça visait d'abord à raconter et expliquer pourquoi nous sommes individuellement de plus en plus dépendants de notre téléphone portable et pourquoi collectivement nous avons l'impression que nos débats, notre espace public se structure autour de clashs émotionnels, voire de fausses informations et d'attaques permanentes. Et ce qui s'est passé depuis 2 ans, ce sont 2 choses de sens contraire.
Oui.
La première, c'est que le temps passé devant les écrans a évidemment considérablement augmenté, non seulement parce que...
Il y a 2 ans, c'était 1h32 que nous passions par jour devant nos écrans de téléphone
connecté,
portable.
Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus que ça, puisqu'on estime que toute personne qui est adepte d'un réseau social, ou plus exactement qui est abonné à un réseau social, il passe entre 2h30 et 3h par jour. Surtout, sous le double effet d'abord de l'accélération un peu de la plateformisation et surtout de la pandémie. Si on prend un chiffre simple, chez les adolescents, le temps d'écran en 2020 a augmenté, et n'a pas augmenté un peu, puisqu'il a augmenté de 70%.
De 70%?
Et si vous prenez un sondage qui est paru en juillet de cette année, en France, on a aujourd'hui 74% des Français qui s'estiment eux-mêmes dépendants de leur téléphone portable, c'est-à-dire, en gros, je ne peux pas m'en passer, ou comme diraient les fumeurs, je n'arrête pas quand je veux.
Oui.
Et la deuxième chose, c'est que 23% des Français s'estiment très, très dépendants de leur téléphone portable. Donc, d'un côté, si vous voulez, vous avez eu une accélération de la plateformisation du monde, sous le double effet de la pandémie d'une part, et puis de l'élan qui était le leur. Mais de l'autre côté, il y a eu cette prise de conscience et ce début des actions. C'est-à-dire que, alors qu'on n'a jamais été autant devant nos écrans, eh bien, il me semble, et c'est ça que j'essaye aussi de raconter et d'expliquer, qu'il n'y a jamais eu autant de prise de conscience de cette dépendance individuelle, donc d'action pour essayer de la combattre, et surtout de prise de conscience collective de l'effet, comme on dit, de polarisation des réseaux sociaux sur notre espace public et donc
et
des
ça,
actions.
Et ça, on va en parler, évidemment, parce qu'il y a la question de savoir comment répondre à ce défi, comment répondre, justement, comme citoyen à ce risque majeur, et j'ai hâte de vous entendre débattre avec Gilles et Natacha. Expliquez-nous pourquoi il y a tempête dans l'aquarium.
La tempête, parce que elle est individuelle dans cette fatigue qui est la nôtre par rapport aux écrans. Elle est évidemment collective. Depuis 2 ans, si je ne parlais pas des écrans, j'aurais pu vous dire, vous voyez, on a commémoré avant-hier une année de la prise du Capitole avec évidemment le rôle phénoménal des réseaux sociaux. On voit la campagne présidentielle qui s'amorce en ce moment, on voit les types de débats, l'accélération permanente. Et donc si vous voulez, cette accélération et cette fragmentation permanente, ça n'a jamais été aussi fort. Les plateformes n'ont jamais été aussi puissantes. Mais en même temps, dans cette tempête, cette tempête est une sorte d'écume aussi sur un grand calme. On y reviendra peut-être, mais c'est la grande majorité de ce qui s'échange dans la sphère sociale, dans les réseaux sociaux, est plutôt pacifique.
Oui,
mais malgré tout, nous avons l'impression de vivre une tempête permanente.
On va en parler. Gilles Finkelstein, puis Natacha Polony.
Après le poisson rouge, donc c'est la tempête dans le bocal, c'est une suite. Souvent, quand il y a une suite, c'est vrai au cinéma, et c'est vrai avec un essai, on se dit c'est moins, ça va être moins bien. Et là, c'est très bien. Non, je dois dire mon plaisir de lecture, c'est qu'il y a, comme avec le précédent essai, à la fois des qualités d'exposition et des qualités d'illustration. Donc on ne s'ennuie jamais, on apprend beaucoup de choses, ça donne à réfléchir. Il y a, vous citez beaucoup d'études qu'on ne connaissait pas. Il y a des portraits des grands gourous du net, et c'est à la fois
inquiétant. Et le plus grand d'entre eux, en l'occurrence, Citizen Zuck, comme vous l'appelez, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook.
Mais aussi Jack Dorsey, le patron ou l'ex-patron de Twitter. Et c'est un livre qui est à la fois inquiétant parce que vous décrivez, mais optimiste aussi par les pistes de solutions pour changer le système que vous esquissez. Donc, plaisir de lecture. Peut-être pour moi, première question, si on parle de ces dommages du numérique, à la fois individuel et collectif, si vous deviez, au-delà du mot, illustrer la chose ou classifier les différents dommages, vous diriez quoi? Je cite juste un chiffre qui m'a fasciné comme illustration de cette dépendance. Vous dites que 17% des possesseurs d'AirPods les gardent pour faire l'amour. C'est quand même incroyable.
Ça, c'est assez génial. Ce sont les casques connectés sans fil d'une marque à la pomme, en l'occurrence. Et c'est vrai que donc près de 20%, près de 2 personnes sur 10 les gardent pour faire l'amour.
C'est complètement dingue.
Quelle est la morale de cette histoire? Quelle est la morale, Bruno Pacino, de ce chiffre?
La morale qui fait qu'à un moment donné, dans ce moment-là, on s'enferme dans sa bulle auditive, sans partager la même musique, a priori, avec la personne avec laquelle on interagit. Je sais pas quelle est la morale qu'on peut tirer de ça.
Comment on interagit, ça c'est vraiment le président d'Arte qui exprime.
Mais non, d'abord deux choses par rapport à la question de Gilles. La première, c'est que je tiens à le redire, tout ce qu'on décrit là, pour moi, n'est pas une conséquence de la technologie. C'est-à-dire, il n'y a pas de déterminisme technologique. Ça n'est pas le numérique qui produit ça ou le fait d'avoir des smartphones qui produisent ça. C'est le modèle économique associé à la connexion permanente. Et je pense que c'est ça qui me rend d'une certaine façon optimiste, parce qu'effectivement, je vois mal comment une société ou une civilisation peut revenir en arrière sur des étapes technologiques importantes. En revanche, comment on peut corriger les grands dysfonctionnements dus au couple que forme la technologie d'une part et un modèle économique de l'autre, ça je crois qu'on a une latitude politique et qu'en tout cas c'est un vrai débat politique. Sur l'illustration des AirPods, je mets aussi...
On ne fera donc plus jamais l'amour comme avant.
Juste à côté, parce que pour moi ça allait, si j'ose dire, en couple, le fait que quand vous êtes sur Netflix, vous avez désormais la possibilité de regarder vos vidéos en accéléré, 1,5 fois la vitesse, et que, à ma connaissance, d'abord de plus en plus de gens y ont recours, et même y ont recours de façon systématique. Et je crois que ça résume les deux choses, les deux impacts de cette technologie-là, une accélération permanente, c'est-à-dire une fait qu'on ne maîtrise plus notre temps, on court toujours derrière un temps qu'on était censé gagner grâce à la technologie et qu'on perd parce qu'on nous capte notre attention en permanence, et cette fragmentation individuelle, c'est-à-dire que même dans le moment le plus intime de partage, vous êtes quand même quelque part happé dans votre bulle individuelle.
Natacha Polony.
Premièrement, je m'associe aux éloges de Gilles, et j'y ajoute un point qui pour moi est fondamental, c'est que ce livre touche à ce qui me semble le plus essentiel aujourd'hui, qui est la question de savoir si une démocratie est encore possible dans ce contexte-là. Parce qu'en fait, c'est en permanence cette question-là que vous posez. On va y venir, vous aborder la question de la constitution même de la possibilité d'une communauté politique à travers la question de la confiance. Vous expliquez que pour qu'il y ait établissement de la vérité, il faut un réseau, en fait, un réseau d'institutions qui se répondent, c'est-à-dire aussi bien les médias que les institutions politiques et tout cela, et que finalement la confiance ne vient pas du fait que nous savons que ce qui nous est dit est vrai, c'est parce qu'il y a confiance au départ entre les acteurs de ce réseau qu'il y a possibilité d'établir la vérité. Et en fait, la question que je me pose en vous lisant, c'est la question de savoir à quel moment nous sommes anthropologiquement transformés par tout cela. Parce que vous évoquez aussi la question des transformations même du cerveau à travers l'usage des réseaux sociaux. Est-ce que nous ne sommes plus les mêmes êtres humains que ceux qui ont penser les lumières, la possibilité d'un individu, d'un citoyen, on en parlait tout à l'heure, d'un citoyen autonome et responsable, ou est-ce qu'il y a encore une chance?
Bruno Pacino.
Alors c'est une question vertigineuse, et effectivement, Natacha a raison, c'est
oui, mais
évidemment
vous l'affrontez.
Ce qui sous-tend tout le livre. Vous faites, et je fais allusion effectivement aux travaux de Jonathan Rauch qui dit l'établissement de la vérité, enfin ce qui fait qu'on vit ensemble, c'est d'abord que tout ça, la circulation de l'information ou du débat, ça se fait en réseau. Et ce qui me semble intéressant et important, vous l'avez souligné, ça n'est pas la qualité intrinsèque de chaque élément du réseau qui fait cette solidité du réseau, mais la solidité du réseau, c'est parce que les gens se font confiance à un moment donné et sont dans une sorte d'échange honnête. À partir du moment où la confiance n'existe plus, l'échange honnête n'existe plus. Or, vous l'avez tout à fait signalé, qu'est-ce qui se passe dans un univers d'espace public? Alors, on peut reprendre les sphères délibératives. Il y a évidemment la sphère politique, l'espace public, et puis la troisième qui est, on va dire, la sphère délibérative collective. Qu'est-ce qui se passe quand ce qui est l'objet du débat est moins l'idée en elle-même que la nature de l'émetteur? En gros, ce qui m'intéresse, ça n'est pas de vous contredire, mais c'est de vous faire sortir du débat, c'est-à-dire de vous délégitimer, de vous attaquer. Et donc, évidemment, l'espace public soumis à une accélération permanente, à une fragmentation permanente...
Et aux émotions, vous décrivez donc notre démocratie comme une
démocratie, parce que ça devient un espace public pulsionnel. Donc, je ne pense pas, pour être très clair, et je n'ai pas les compétences en plus pour arriver à déterminer ça, que la polarisation, l'accélération générale, hein, il y a les travaux d'Hartmut Rosa là-dessus, soit des produits purs des réseaux sociaux. La meilleure preuve, on a entre guillemets déplatformisé Trump après l'assaut du Capitole, d'abord en suspendant son compte Twitter, ensuite en suspendant son compte Facebook. Ça n'a pas mis un terme au trumpisme.
Oui.
Mais ce que provoquent les réseaux sociaux, c'est effectivement d'abord une très forte coagulation, on va dire, des idées pulsionnelles les plus fortes, et puis, d'une certaine façon, une autoconviction que non seulement je ne suis pas seul, mais j'ai raison, parce que les systèmes de bulles émotionnelles font que je suis le plus audible pour moi-même. Et si je rajoute la structure algorithmique qui toujours favorise les messages les plus pulsionnels et émotionnels parce qu'ils sont économiquement les plus rentables, eh bien, j'arrive...
Même s'ils ne sont pas les plus nombreux, contrairement à l'illusion qu'on peut avoir.
Mais c'est juste ça. C'est-à-dire que, toujours quand on parle des réseaux sociaux, des fake news et autres, et je vais prendre juste 30 secondes, on met un tout. On oublie de regarder les trois niveaux. Le premier niveau, c'est la volumétrie. Combien de messages diffamatoires, de harcèlement, haineux, de fake news, tout ce que vous voulez, combien de comptes sur ces réseaux sociaux? C'est assez faible, 3 à 5%.
C'est même très faible.
Et donc les plateformes ont beau jeu de dire, mais 3 à 5%, quelle institution aujourd'hui ou quelle organisation n'a pas 3 à 5% de choses qui dysfonctionnent? Et puis le deuxième niveau qui est très important, c'est évidemment votre exposition à ces messages-là. Et cette exposition-là, elle est totalement différente. Aujourd'hui, les plateformes refusent, la plupart du temps, et notamment Facebook, l'accès aux données qui permettraient à des universitaires ou des organismes de recherche indépendants de vraiment quantifier la chose. Donc on peut quantifier l'exposition au travers de cas particuliers. Et les cas particuliers, j'en parle, la fameuse étude qui a provoqué la réaction de Joseph Biden, il tue des gens, they kill people, quand on lui demande le rôle des grands médias sociaux avec la pandémie.
Il parle de l'action des réseaux sociaux justement face à la pandémie.
Il parle de ça.
Et il dit que c'est même le début, la genèse d'un mouvement planétaire.
Il tue des gens, mais ils disent il tue des gens, il parle de qui? Il parle de 12 personnes qu'on a surnommées de Dirty Dozen, donc les 12 salopards, en référence évidemment au film, de 12 personnes qui sont suivies par 59 millions de personnes. Déjà, vous voyez les choses. Et qui sont à l'origine de, suivant la façon de calculer sur Facebook uniquement 73% ou 60% sur l'ensemble des réseaux, de tous les messages anti-vax ou autres, ou complotistes anti-vax que vous pouvez trouver sur les réseaux. Et donc on voit bien qu'à un moment donné, une toute petite minorité, c'est même plus une minorité, ça se compte...
Un peu plus que les doigts d'une main.
Un peu plus, ouais, exactement.
De deux mains.
De deux mains, si vous avez 6 doigts à vos mains. Mais on n'est pas très très loin. Donc 12 personnes qui, à un moment donné, ont de l'impact dans la vie de 59 millions. Et donc, la question à savoir là, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Et ce qui se passe, c'est que ce sont les algorithmes qui ont recommandé ces 12 personnes aux 59 millions de personnes. Donc, la machine elle-même a surexposé ce qui provenait de ces messages-là. Et ça, ce deuxième niveau, il est extrêmement important et pour moi, il est au cœur de tout. Le troisième niveau, mais je ne le développerai pas ici, c'est notre propre crédulité.
Oui.
Et ça, il faut y revenir.
Ça, c'est très important et il y a une question que vous posez, évidemment, c'est comment réguler ou comment reprendre la main sur ce qui semble nous dominer ou totalement nous échapper. Gilles Finkelstein, puis Natacha.
Si on accepte l'idée, mais qui mériterait en elle-même un débat, que nous avons une conscience à la fois individuelle et collective des dommages. Je dis que ça mériterait un débat parce que vous citez aussi l'analyse qui avait été faite après l'explosion de la navette Challenger de cette sociologue américaine qui avait parlé de la normalisation de la déviance. Et donc le fait qu'on s'habitue et qu'on considère, on finit par considérer normale une situation qui ne l'est pas. Mais si on considère, si on rentre dans votre raisonnement optimiste et qu'on donc dit on a une conscience et qu'on réfléchit aux solutions. Alors, il y a plusieurs registres de solutions que vous évoquez dans le livre, mais si on prend les principales, autorégulation, c'est-à-dire on demande aux plateformes elles-mêmes de contrôler ce qui y est diffusé, et d'une certaine manière, en rentrant dans votre logique, ça ne serait pas illégitime, puisque vous dites que ce sont des éditeurs, mais vous dites là, c'est dangereux. Deuxième option, une instance extérieure, c'est ce que Facebook a fait avec sa Cour suprême. Vous êtes à la fois sceptique et en même temps vous dites qu'il y a quelque chose quand même qui s'est passé. Le démantèlement, un peu dans une logique anglo-saxonne d'institutions qui ont pris, ou d'entreprises qui ont pris un pouvoir excessif. La version européenne de l'organisation du marché, dans quelle direction il faut s'engager ?
Bruno Pacino,
il faut, je peux vous dire, ce pourquoi je plaide, mais après, je vais, si vous le permettez, je vais prendre votre question, mais en la classant différemment, parce que je pense que ça peut être, et ce que j'essaye de faire dans le livre et de raconter. Je pense d'abord, la vraie question qui se pose à un moment donné, c'est tout ça, est-ce que c'est extérieur à la plateforme ou est-ce que c'est intérieur à la plateforme? Je pense que le grand débat aujourd'hui, là où personne n'est d'accord, évidemment, c'est que les plateformes disent tout ça, ça vient de l'extérieur.
Oui.
C'est-à-dire, il y a des gens chez nous, on est un univers neutre, peut-être pas luxe, calme et volupté, mais pas loin, et il y a des gens qui viennent de l'extérieur le polluer. Alors ça peut être des organismes de désinformation, ça peut être des robots, des faux comptes, des gens un peu fous, etc. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes tout à fait, nous, plateformes, disposés à régler cette problématique qui vient de l'extérieur. Donc,
et d'ailleurs, ce sont des robots, par exemple les
15 milliards
robots,
de faux comptes.
C'est Facebook qui a un recours massif à des modérateurs, et vous le décrivez très bien.
Massif suivant les pays, ça dépend. Et puis c'est de dire aussi, je crée une Cour suprême, mais la Cour suprême, enfin le Facebook Oversight Board, mais la Cour suprême n'a comme objectif uniquement que de valider mes exclusions du système. Et puis vous avez une autre hypothèse qui, comme vous l'imaginez, est plutôt la mienne, qui est de dire il y a un dysfonctionnement intérieur. C'est-à-dire ce qu'on disait entre la volumétrie d'une part et l'exposition, c'est la machine elle-même due à son modèle économique qui fait qu'à un moment donné, même si des messages nocifs viennent de l'extérieur, elle les amplifie et elle leur donne une importance dans notre espace public qui est beaucoup plus grande. Et dans ces cas-là, évidemment, dès lors qu'on parle de ça, on parle à la fois de la nature du modèle économique et de l'instrument du modèle économique premier qui est l'économie de l'attention et donc l'algorithme. Et donc, si on regarde bien, le démantèlement, c'est toujours intéressant parce que on va dire que ça permet à d'autres sociétés de se créer, mais est-ce qu'il est plus important de réduire la taille de ces entreprises ou d'en contraindre d'en canaliser le modèle économique? Évidemment, moi je crois plutôt à la deuxième chose, c'est-à-dire je pense et je plaide pour ce que l'on appelle aujourd'hui non pas la transparence des algorithmes, mais la responsabilité algorithmique. Pour prendre une image et une métaphore, évidemment je raconte tous les gens qui la mettent en œuvre, prenons une métaphore, j'allais dire, alimentaire. Vous ne demandez pas à quelqu'un qui fait des plats tout préparés ou de l'agroalimentaire et qui les distribue quelque part de vous donner sa recette, parce qu'après tout, ça fait partie, entre guillemets, du secret des affaires et de sa propre capacité. En revanche, vous lui demandez d'être transparent sur la composante et la provenance de ses aliments, et pour être sûr d'en étudier l'effet ou pas sur notre santé. Eh bien, je crois que la responsabilité algorithmique, c'est être capable de mesurer de façon indépendante l'effet des algorithmes et d'en mesurer les effets sur deux choses, notre dépendance aux écrans, et la polarisation de l'espace public.
L'image est très claire, Natacha.
Et ce qui me frappe, c'est que dans notre discussion, et il me semble que c'est ce qui arrive extrêmement souvent quand on parle de ces questions-là, et est-ce un biais que nous avons en tant que journalistes, nous nous focalisons directement sur la question des fake news. en fait. Et on voit que ça glisse directement là-dessus. Or, ce que vous montrez dans votre livre, et qui me semble fondamental, c'est que le problème, ce ne sont pas seulement les fausses informations qui circulent et qui créeraient le trumpisme, la polarisation. La question est de savoir ce que crée sur l'être humain cette existence à travers les réseaux sociaux et la mise en scène de soi. Et c'est ce qui apparaît notamment quand on se pose la question de l'effet des réseaux sociaux sur les enfants. Et vous en parlez, évidemment, vous rappelez tous les débats qu'il y a eu sur Facebook et Instagram, l'éventualité d'un Instagram pour les moins de 13 ans. Et la question que je me pose, c'est de savoir comment, de ce point de vue-là, on peut faire. Vous évoquez l'existence
maintenant
de coach.
Le projet a été abandonné, pour les moins de 13 ans.
Mais vous évoquez maintenant la question de coach parentaux qui explique aux parents que c'est bien d'aller jouer au ballon avec leurs enfants plutôt que de les laisser regarder des vidéos de ballons sur les... Voilà. Donc, le problème, et je le dis rapidement, c'est que toute la société est en train de se construire autour de l'introduction de plus en plus tôt des réseaux sociaux. Et je parle par exemple de l'école. Et le coronavirus, la crise sanitaire, a amplifié cela. Et il y a des injonctions contradictoires permanentes, puisqu'en gros, les professeurs sont les premiers à dire que c'est une catastrophe, le temps d'écran pour les enfants. Et en même temps, oblige les enfants à utiliser les réseaux sociaux pour avoir accès à leurs notes, à leurs discussions sur les classes. Comment fait-on ? Est-ce que ça, c'est une question de régulation dont vous parliez, régulation interne, régulation externe ? Qu'est-ce qui est possible ?
Alors, Bruno Patino.
Sur la dépendance aux écrans, vous avez tout à fait raison. Je mentionne dans un chapitre le questionnaire coréen, qui maintenant est quasiment obligatoire. Il y a 10 questions assez simples. D'ailleurs, comme dans un hebdomadaire, je donne la moyenne, la façon vous-même de faire le questionnaire et de regarder votre niveau de dépendance, mais on s'aperçoit que les questions qui sont posées dans ce questionnaire-là nous poussent tous à dire oui, en fait. C'est-à-dire que...
Bien sûr, mais justement, c'est pour ça que ma question n'était pas sur le temps d'écran, mais sur la construction du moi, ce qui est un peu différent.
Je suis entièrement d'accord, mais si vous voulez, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est-à-dire que... on arrive évidemment dans une société où la connexion est importante, et donc la connexion, le fait de vivre, non pas vivre toute sa vie à travers les écrans, mais vivre une partie de sa socialisation, de l'éducation, de la culture via les écrans, est installé. Et d'ailleurs, je pense que le confinement, le coronavirus, montreront l'accélération globale et l'installation de ce système-là. Il reste à voir le télétravail désormais qui est discuté.
La télévie, comme vous l'appelez, les écrans qui nous ont sauvés malgré tout.
Donc ça nous a sauvés. Donc il me semble que la question centrale, elle est de maîtriser ce rapport-là. Et vous voyez bien, là aussi, on est dans un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez les séminaires de déconnexion, l'apprentissage aux enfants d'une connexion, j'allais dire, saine, le travail aussi sur ces réseaux-là, de façon, encore une fois, à en maîtriser les dysfonctionnements. Et de l'autre, le métaverse, c'est-à-dire ce projet de dire, désormais...
Le projet de Mark Zuckerberg.
Non seulement de Mark Zuckerberg, mais d'une grande partie de l'industrie numérique, et de dire, via des casques de réalité virtuelle, vous mentionniez une entreprise à la pomme tout à l'heure qui elle-même aussi va développer un casque de réalité virtuelle générale. On va vivre toute une partie de notre vie culturelle, de socialisation, etc. Et donc là, on n'est plus seulement dans la captation du temps et de l'attention, mais aussi dans la captation de l'espace. Donc on voit bien comment le marché numérique, puisque c'est un marché aussi, c'est l'extension du domaine du calcul et du domaine transactionnel, comment ça s'attaque à l'espace. Et donc on est dans ce moment de discussion profonde entre prise en main des effets à la fois sur le moi, sur le narcissisme, sur le pulsionnel et sur le temps d'écran aussi, sur cette socialisation-là, pour essayer d'avoir une connexion relativement saine, et en même temps le moteur qui continue à avancer dans cette extension-là.
Il nous reste très peu de temps, Bruno Patino. Il y a de nombreuses rencontres. Je parlais de celle avec Mark Zuckerberg, avec qui vous avez échangé, avec qui vous avez dialogué, et dont vous faites un portrait qui est aussi glaçant que celui qu'on peut voir dans le film de David Fincher. En tout cas, c'est pas loin d'être un robot, un peu plus qu'un être humain, mais quelqu'un qui aujourd'hui est l'un des maîtres de cet espace-là. Et il y a une autre rencontre qui est assez fascinante et qui peut faire réfléchir, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle et que Gilles disait la médiocrité des sujets dont on débat. Vous parlez du Chili, pays que vous connaissez bien, de l'ancien président chilien Piñera, et en l'occurrence Piñera qui ouvre une perspective à laquelle on n'avait absolument pas réfléchi. C'est, comment on dit en espagnol, neuroderechos.
Les neurodroits.
Les neurodroits.
Et ce qui est paradoxal, c'est un président ultralibéral qui a été soutien du régime militaire et dont on ne peut pas dire qu'il soit parmi les plus avancés du continent. Et même en étant cette personne-là, il va plaider devant le sommet des chefs d'État d'Amérique latine en disant, à un moment donné, nos neurodroits, c'est-à-dire les droits...
Du cerveau,
c'est-à-dire, en fait, le discours était à la fois un peu ridicule et tout à fait profond en disant, on nous extrait de la donnée en permanence. Dans l'extraction de nos données comportementales et identitaires, on utilise, ou les grandes plateformes utilisent cette extraction de données pour peser sur notre comportement. Natacha l'expliquait tout à l'heure, pour peser même sur le développement de notre attention, de nos rapports, pour des raisons, encore une fois, extraordinairement économiques. Et le côté un peu ridicule ou pas, d'ailleurs, il disait, ils finiront par nous implanter des choses dans le cerveau.
Oui.
Mais en tout cas, il disait, il faut se préoccuper de ça. Non pas le droit de nos données, est-ce qu'elles nous appartiennent ou pas, mais le droit à nous extraire nos données. Et de là, ça, c'est quelque chose de totalement différent. Et donc, on voit bien que, entre lui d'une part, d'autres qui disent, attention, le numérique est l'extension du domaine du calcul en permanence. Donc, à quel moment on réduit ce domaine-là et cette extension-là? Ce sont des questions, à mon sens, politiquement absolument
fondamentales, oui, déterminantes. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on n'imagine pas aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle en France parler de neurodroit ou en tout cas de penser la législation pour protéger nos cerveaux et cette forme de servitude à laquelle on a souvent l'impression de ne pas pouvoir répondre.
Oui, mais en même temps, vous avez par exemple des organismes en France, y compris la CNIL, qui commencent à réfléchir sur le dark design, c'est-à-dire sur la façon dont sont construites ces grandes applications par rapport à ce qu'on appelle le brain hacking, c'est-à-dire l'hameçonnage de nos cerveaux.
Il nous reste très peu de temps. Gilles, d'un mot, puis Natacha.
Oui, si on rêvait un peu, puisqu'on arrive à la fin de l'émission et que je disais que ce livre est un livre aussi optimiste, vous citez un certain nombre d'initiatives qui essayent de penser un autre système numérique et d'autres réseaux sociaux, les réseaux sociaux de services publics, non pas de Zuckerberg, mais de Zuckerman, le choix de ces algorithmes avec l'oiseau bleu de Dorsey, ça serait quoi un autre système numérique et d'autres une autre logique de réseaux sociaux?
En quelques mots, Bruno Patino.
Le numérique, en 25 ans, il s'est à la fois centralisé et il a été privatisé ou approprié, alors que c'était un projet au départ horizontal, décentralisé et égalitaire. Donc ça serait de revenir à une sorte de décentralisation du réseau.
Mais pourquoi est-ce que ça a été possible? Vous avez été l'un de ceux qui ont engagé la transition numérique de ce journal et sa digitalisation. Vous l'avez même mené. Vous avez été patron de France Culture. Vous êtes patron d'Arte, en l'occurrence. Qu'est-ce qui fait que sur ces nouveaux médias-là, on n'a pas la même prise, on n'a pas la même capacité d'invention et de régulation et même de responsabilité pour créer quelque chose comme un service public?
D'abord, alors ça c'est autre chose, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ce ne sont pas des médias, ce ne sont pas uniquement des médias, ce sont des organismes d'une nouvelle dimension et d'une nouvelle nature. Et je pense qu'il faut en revenir aux origines libertariennes du numérique, d'ailleurs auquel j'étais sensible, c'est-à-dire de dire, on crée un nouvel espace, cette capacité qu'on va avoir d'avoir à la fois l'économie du partage et la mise en commun des intelligences, donc l'intelligence collective, nécessite une absence totale de régulation et d'effet de la collectivité sur l'organisation de cet espace. Et voilà ce que ça a donné, appropriation, privatisation et centralisation.
Alors Natacha, vraiment d'un mot?
D'un mot, vous évoquez à un moment donné Karl Polanyi en se rappelant justement qu'il explique que le capitalisme industriel a exploité la nature jusqu'à la détruire et que finalement il y a peut-être un lien, c'est-à-dire que cette économie de la surveillance et du calcul va exploiter l'être humain jusqu'à ce que vous appelez l'épuisement humain. Cet épuisement humain, ça ressemble à quoi exactement?
En tout cas, ça ressemble, pour revenir aussi aux travaux de Shoshana Zuboff, à une extraction sans limite de nos données comportementales et identitaires.
Bref, il faut une écologie
absolument.
De l'humain.
Il faut arriver à une écologie de l'humain et à une écologie numérique.
Et il faut ranger nos téléphones portables dans nos poches et lever les yeux vers le ciel. Ça rappelle ce film Don't Look Up. Don't Look Up, au contraire, il faut regarder vers le ciel. Et c'est le message optimiste qu'il y a dans Tempête, dans le bocal. Sénégal. Merci Bruno Patino, c'est absolument passionnant. La nouvelle civilisation du poisson rouge, c'est publié chez Grasset. Natacha Gilles, rendez-vous samedi prochain pour un grand face-à-face XXL, un débat sur l'Europe en public depuis la ville de Metz avec deux eurodéputés, deux essayistes engagés, l'un de droite, l'autre de gauche, François-Xavier Bellamy et Raphaël Glucksmann. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Gilles Gaillard. Et puis, à ne pas manquer sur Inter, et pour ma part, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle émission politique, une nouvelle émission qui démarre demain sur Inter, un dimanche de campagne. Vous avez rendez-vous tous les dimanches à 18h. La rédaction d'Inter est mobilisée. Un dimanche de campagne. Toutes les infos sont sur notre site ou l'application France Inter.